Et je vous propose maintenant d'aborder dans les pénultièmes et dernières parties de l'exposé la question des solutions qu'on peut envisager à partir de ce constat un peu sombre sur lequel je vous ai laissé. Je vais d'abord examiner des solutions de longue échéance ou des solutions idéales, et puis je vais un peu parler du sommet de Copenhague et de ce que l'on peut attendre de ce sommet et comment la question des migrations climatiques y est prise en charge. Au premier rang des solutions dont on parle souvent à ce problème se trouve la question du statut des réfugiés climatiques. Donc c'est un peu une sorte de monstre du Loch Ness, c'est-à-dire quelque chose qui n'existe pas, mais dont vous devez bien parler et dont on vous parle à chaque fois qu'on évoque le sujet des réfugiés climatiques. Puisque ce qu'il est important de dire, c'est que le terme de réfugié climatique est un abus de langage. Ceux qu'on appelle réfugiés climatiques ne sont pas, au sens légal du terme, des réfugiés. Comme vous avez dû le voir au cours d'une session précédente, le terme de réfugié est strictement défini par la Convention de Genève de 1951, qui constitue encore aujourd'hui la pierre angulaire du régime international de protection des réfugiés. Qu'est-ce qu'on cherche à faire en 1951 quand on négocie la Convention de Genève? On cherche avant tout à régler le problème des personnes déplacées en Europe par la Seconde Guerre mondiale. À la fin des années 40, il reste encore en Europe des centaines de milliers de personnes qui ont été déplacées par la Seconde Guerre mondiale. Et en 1951, on va chercher à résoudre ce problème. Et dans sa version originale, la Convention de 1951 ne s'applique qu'aux personnes déplacées en Europe et qu'aux personnes déplacées par la Seconde Guerre mondiale. Tous les autres ne sont pas couverts par le champ d'application de la Convention de Genève. Par la suite, devant la multiplication des crises, notamment des crises humanitaires, on va décider en 1967 de lever ces deux conditions de la Convention de Genève et de l'élargir à la fois géographiquement, puisque peuvent maintenant être couvertes toutes les régions du monde, mais aussi de l'élargir pas uniquement aux événements de la Seconde Guerre mondiale, mais à tout type de conflit, de guerre ou de persécution. On discute aussi, et c'est très intéressant, en 1967, d'élargir la Convention de Genève aux réfugiés économiques, à ceux qui quitteraient leur pays parce qu'ils sont trop pauvres pour y trouver un emploi et un revenu décent. Le problème, c'est qu'en 1967, nous sommes en pleine guerre froide, et que donc ceux qui veulent qu'on élargisse la notion de réfugié aux réfugiés économiques, ce sont les Russes qui proposent que tous les pauvres du capitalisme, tous ceux que le capitalisme abandonne au bord de la route, puissent venir trouver asile dans les bras du communisme. Vous imaginez bien que pour les puissances occidentales, il n'est donc pas question de faire ce cadeau à la Russie. Et donc, pour des raisons purement politiques et même politiciennes, on va restreindre le champ d'application de la Convention de Genève aux personnes qui sont persécutées à cause de 5 critères précis, en raison de leurs opinions politiques, en raison de leur religion, en raison de leur race ou de leur ethnicité, comme on dirait aujourd'hui, en raison de leur appartenance à un groupe particulier, qui est une sorte de terme un peu vague, ou en raison de leur nationalité. Pour obtenir le statut de réfugié, il faut donc que vous ayez quitté votre pays parce que vous étiez persécuté pour ces raisons ou parce que vous craigniez d'être persécuté pour ces raisons. En 1951, quand on crée la Convention de Genève, on crée aussi en même temps le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, le HCR, qui est l'agence des Nations Unies qui est censée prendre en charge l'application de la Convention de Genève. Au départ, le HCR n'a pas vocation à devenir une grande agence des Nations Unies. C'est un tout petit bureau créé pour 3 ans, sans budget spécifique et sans capacité opérationnelle. Le HCR est censé rester à Genève et ne pas commencer à intervenir sur le terrain. Et l'idée, c'est donc bien de restreindre le mandat du HCR, et quand on lit les travaux préparatoires de la Convention de Genève et du mandat du HCR, on constate par exemple que le représentant français dit « Non, non, ne créons surtout pas quelque chose pour les futurs mouvements de réfugiés, créons quelque chose qui va s'occuper des mouvements qu'on connaît déjà aujourd'hui. » Et c'est devant la multiplication des crises humanitaires, devant la multiplication des flux de réfugiés, que le HCR va peu à peu étendre son action et va devenir aujourd'hui une des plus importantes agences des Nations Unies. Reste que, ni en 1951, ni en 1967, on imagine, on émet vraiment l'hypothèse que des gens, à terme, puissent être déplacés par des dégradations de l'environnement. Et donc aujourd'hui, on se trouve face à un vide dans le droit international pour ce qui concerne le statut juridique des personnes déplacées par des dégradations de l'environnement. Et donc c'est pour ça que les appeler réfugiés climatiques ou réfugiés environnementaux est un abus de langage. Alors beaucoup disent, il faut réparer cet oubli, il faut aujourd'hui donner un statut international de réfugiés aux personnes déplacées par le changement climatique ou les dégradations de l'environnement. Je pense que cette idée du statut est à la fois une condition nécessaire mais pas suffisante et par certains côtés une fausse bonne idée. Pour deux raisons principales. D'abord parce que le statut actuel de réfugié n'est pas nécessairement adapté au statut dont auraient besoin ceux qui sont déplacés pour des raisons environnementales. Par exemple, au cœur du statut actuel de réfugié se trouve la notion d'état défaillant. C'est-à-dire que comme le réfugié ne peut plus chercher assistance et protection auprès de son état d'origine, la communauté internationale va intervenir et va se substituer à l'état d'origine pour offrir cette protection. Dans le cas de dégradation environnementale, on ne se trouve pas nécessairement dans des situations d'état défaillant. Au contraire, on est plutôt dans une logique de coopération et d'aide à l'état touché par les dégradations, plutôt que dans une logique de substitution de souveraineté. Et d'ailleurs, les personnes touchées par ces dégradations ne cherchent pas généralement à quitter leur état d'origine, puisqu'elles espèrent encore pouvoir recevoir assistance et protection de la part de cet état. Donc déjà là, il y a une sorte de différence fondamentale entre un statut qui serait applicable aux réfugiés climatiques et le statut actuel prévu par la Convention de Genève. Un autre problème, c'est qu'un tel statut international, forcément, ne pourrait s'appliquer qu'aux personnes qui se trouvent en dehors de leur pays. Puisqu'il s'agit d'un statut de droit international, il faudrait forcément que les personnes aient quitté leur pays pour pouvoir bénéficier d'un tel statut. Or, je vous ai dit que l'essentiel de ces migrations était des migrations internes. Ça veut donc dire que le statut serait en réalité inapplicable à la grande majorité des personnes déplacées pour des raisons environnementales. Et donc enfin, une troisième difficulté qui est plutôt cette fois-ci d'ordre politique, c'est que beaucoup d'ONG et de spécialistes du droit des réfugiés craignent que si l'on ouvrait à révision la Convention de Genève, vu le climat politique du moment, on irait plutôt vers une restriction du droit d'asile plutôt que vers une extension. Et que donc, rouvrir à négociation la Convention de Genève serait ouvrir la boîte de Pandore. Entre nous, je ne crois qu'à moitié à cet argument, et je pense qu'à un moment donné, il faudrait se poser la question de savoir si une convention rédigée en 1951, sans aucune conscience des problèmes économiques ou environnementaux qui allaient survenir, dont les termes ont été définis pour des raisons purement politiciennes liées à la guerre froide, est encore bel et bien adaptée à la réalité des migrations forcées au XXIe siècle. Et si cette convention peut encore prétendre être une sorte de miracle divin du droit humanitaire, comme certains la présentent parfois. Donc je pense qu'il faudra à un moment donné pouvoir se poser la question de l'adéquation de la Convention de Genève à la réalité des migrations forcées aujourd'hui, mais c'est sans doute un autre débat. Quoi qu'il en soit, donner un statut de réfugié aux personnes déplacées dans un autre État que le leur pour des raisons environnementales est sans doute une bonne idée, même s'il faudrait sans doute adapter ce statut, et tout en gardant à l'idée qu'on n'a pas du tout et loin de là réglé le problème, puisque la plupart sont déplacés à l'intérieur de leur pays. Et donc, ma crainte par rapport à ce statut, c'est aussi souvent que l'on se dise, voilà, ils ont un statut, le problème est réglé. On en serait très très loin, et ça serait une illusion que de croire cela. Une autre piste de solution qui est également importante, et qui est même, à mon sens, tout à fait capital, réside dans l'adaptation au changement climatique. Qu'est-ce que c'est que l'adaptation au changement climatique ? C'est l'autre volet de la lutte contre le changement climatique. Dans l'esprit de beaucoup de gens, y compris dans l'esprit de beaucoup de négociateurs internationaux, dans l'esprit du président Obama ou dans l'esprit de Wang Jiabao, le premier ministre chinois, la lutte contre le changement climatique, ça reste uniquement la réduction de nos émissions de gaz à effet de serre. C'est ce qu'on a cru pendant très longtemps. En réduisant nos émissions de gaz à effet de serre, on allait pouvoir échapper à tous les impacts du changement climatique et qu'on n'aurait plus trop à se tracasser du changement climatique dès l'instant où on parvenait à réduire significativement nos émissions de gaz à effet de serre. Mais on s'est rendu compte au fil du temps que d'une part, on ne le faisait pas et que nos émissions de gaz à effet de serre continuaient à monter et que d'autre part, même si on les réduisait drastiquement, même si on arrêtait tout aujourd'hui, il y aurait quand même une série d'impacts qui auraient des conséquences humanitaires importantes qu'il faudrait gérer. L'adaptation, c'est l'ensemble des mécanismes et des stratégies que l'on peut déployer pour permettre aux populations de faire face aux impacts du changement climatique. C'est parfois des solutions ambitieuses d'ingénierie, élever des digues, mettre en place des systèmes d'irrigation. Ça peut être aussi des stratégies beaucoup plus locales, diversifier l'agriculture, par exemple, pour diversifier les sources de revenus. Pendant très longtemps, on a refusé de parler de l'adaptation parce que ça sonnait comme une sorte d'aveu d'échec des politiques de réduction des émissions de gaz à effet de serre. C'était genre, ne discutez surtout pas de l'adaptation. Discuter de l'adaptation, ça veut dire qu'on aurait échoué à réduire significativement nos émissions de gaz à effet de serre. Depuis 3 ou 4 ans, on a, il était temps, reconnu que l'adaptation était un autre volet de la lutte contre le changement climatique qui devait être d'égale importance à celui de la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Aujourd'hui, une bonne partie des négociations de Copenhague tournent autour de cette question de l'adaptation et en particulier du financement de l'adaptation. Qui va payer pour tous ces mécanismes? Qui va payer pour aider les pays touchés à faire face aux impacts du changement climatique? Alors, c'est bien entendu des mesures d'adaptation au changement climatique qui vont permettre d'éviter que des populations ne doivent migrer. Si une population peut s'adapter au changement climatique, parfois, elle ne devra pas migrer. Je pense néanmoins qu'il est très important que ces mécanismes d'adaptation ne soient pas réservés à la seule région d'origine des migrants. Et je pense aussi qu'il est important que les migrations ne soient pas considérées systématiquement comme un échec de politique d'adaptation. Très souvent, on considère que les gens vont devoir migrer s'ils ne parviennent pas à s'adapter. Et que donc la migration est une solution de dernier recours quand tout le reste aurait échoué. En réalité, dans de nombreux cas, si on permet aux gens d'organiser, de planifier leur migration peut devenir en elle-même une véritable stratégie d'adaptation. Une stratégie que les migrants vont déployer pour anticiper les effets attendus du changement climatique. Ça implique évidemment qu'on leur en donne les moyens, à la fois les moyens financiers, mais aussi les moyens politiques. Ça implique qu'on adapte une série de politiques migratoires pour encourager ces déplacements proactifs de population. Le deuxième aspect, c'est sur l'importance de prévoir également des mécanismes d'adaptation dans la région de destination. Pour vous faire comprendre cela, je vous donne le simple exemple de Houston. Après Katrina, la ville de Houston, au Texas, qui est la quatrième ville des États-Unis, a dû accueillir environ 250 000 personnes déplacées de la Nouvelle-Orléans. Les premiers jours, ces personnes ont été accueillis avec fanfares et trompettes, on les a accueillis avec orchestre, pom-pom girl, distribution de vivres, de nourriture, de médicaments. Plusieurs familles de Houston les ont accueillis dans leur salon, on les a fait dormir dans des stades de football et dans des supermarchés. Et puis, au bout de 10 jours, tout le monde s'attendait à ce que ces populations puissent retourner chez elles. Au bout de 10 jours, la saison de football allait reprendre. Il fallait évacuer les stades, il fallait que les supermarchés rouvrent leurs portes. Et les gens n'allaient pas avoir une famille qui faisait du camping dans leur salon pendant des semaines et des semaines. Et donc, là, la ville de Houston s'est trouvée très démunie, puisqu'on avait prévu toute une aide d'urgence, des vivres, des nourritures, couvertures, etc. Par contre, on n'avait pas prévu des logements, on n'avait pas prévu des emplois, on n'avait pas prévu des places dans les crèches ou dans les écoles. Et donc, tout ça a rapidement dégénéré. Il y a eu toute une série de problèmes de drogue, de criminalité, de racisme, de discrimination. Tant et si bien qu'au bout d'un mois, les habitants de Houston se sont rassemblés devant l'hôtel de ville et ont manifesté pour que le maire renvoie les déplacés de la Nouvelle-Orléans chez eux. C'est très significatif. Houston, ce n'est pas Bruxelles, vous n'avez pas une manifestation tous les dimanches. Et ça donne la mesure de l'impréparation des régions de destination à faire face à des migrations permanentes qui ne soient plus que des déplacements temporaires de population. Et donc, si les capacités d'accueil de Houston, quatrième ville des États-Unis, se sont trouvées dépassées, imaginez ce qu'il en est des capacités d'accueil de villes comme Dhaka au Bangladesh ou Ouagadougou au Burkina Faso, où là se poseraient également directement des problèmes d'accès à l'eau, des problèmes de nourriture, etc. Et donc il faut aussi, dans les politiques d'adaptation, prévoir des mécanismes d'adaptation pour que les villes et les régions qui vont devoir recevoir des migrants puissent s'adapter à cet afflux supplémentaire de population et à cette pression démographique supplémentaire. C'est extrêmement important. Et puis il faudra également considérer un certain nombre d'enjeux de sécurité par rapport à la possibilité que des afflux massifs de population puissent déstabiliser certaines régions ou créer des tensions entre États. Et je vous ai dit que l'Inde était déjà en train de construire une clôture de sécurité à sa frontière avec le Bangladesh. Et donc, il faudra aussi prendre en compte ces enjeux de sécurité et notamment soutenir les processus démocratiques dans des États plus fragiles pour éviter que ces afflux massifs de population ne contribuent à déstabiliser ces États. Voilà en tout cas quelques pistes de solutions qui peuvent être évoquées. Et donc j'insiste sur, par exemple, l'importance de développer la migration comme stratégie d'adaptation et l'importance de permettre aux plus vulnérables de migrer également et donc de restaurer leur droit à la mobilité, qui est aujourd'hui menacé par les dégradations de l'environnement et le changement climatique. Alors, abordons maintenant, si vous le voulez bien, pour conclure, la question des enjeux de Copenhague et comment la question est traitée au sein des négociations internationales. L'enjeu de base de Copenhague, c'est de s'accorder sur un texte qui pourrait remplacer ou compléter le protocole de Kyoto qui arrive à échéance en 2012. Pourquoi est-ce que tout le monde dit que c'est urgent de régler maintenant un problème qui ne se posera au fond qu'en 2012 ? Parce que le protocole de Kyoto a été signé en 1997 et n'a été appliqué que 8 ans plus tard, en 2005. Et que donc, tout le monde, déjà aujourd'hui, trouve que 3 ans pour mettre en œuvre le texte, ça va être très très juste. Et la grosse crainte de tout le monde, c'est qu'il y ait après 2012 une sorte de période de vide avant que le nouvel accord n'entre en vigueur. Et que tout le monde ne profite de ce vide pour faire repartir ces émissions de gaz à effet de serre à la hausse et anéantir l'effort qui avait été consenti sous le protocole de Kyoto. Et donc la grosse crainte, c'est le trou entre 2012 et le début d'un nouveau texte. L'objectif général de la négociation, en tout cas pour ce qui concerne les réductions de gaz à effet de serre, c'est de limiter la hausse moyenne des températures à 2 degrés Celsius en moyenne. Je vous ai dit que cette moyenne cachait des différences et des variations de température tout à fait significatives. Et tout le monde n'est même pas d'accord sur cet objectif de 2 degrés Celsius. Par exemple, les petits États insulaires, dans la négociation, réclament que l'on prenne plutôt 1,5 degré comme objectif, parce qu'ils disent 2 degrés, ça veut dire 1 mètre d'eau supplémentaire. Si vous prenez 2 degrés, pour nous, ça sera trop tard. Ça veut dire que la plus grande partie de nos terres seront submergées, et que donc ils se battent, mais c'est un combat perdu d'avance, pour que l'objectif soit plutôt 1,5 degré plutôt que de 2 degrés. De façon à avoir une chance sur deux de limiter cette augmentation de température à 2 degrés d'ici la fin du siècle, le GIEC a calculé qu'il faudrait diviser par 2 les émissions mondiales de gaz à effet de serre d'ici 2050. Et le gros enjeu de la négociation, c'est un enjeu de distribution. On sait que globalement, il faut diviser par 2 les émissions d'ici 2050. Comment va-t-on répartir cet effort entre les différents pays ? Et la deuxième question, c'est comment va-t-on répartir l'effort financier pour aider les pays touchés à s'adapter ? Et donc vraiment, toute la négociation est traversée par une question d'équité distributionnelle, c'est-à-dire comment va-t-on allouer, comment va-t-on distribuer équitablement l'effort de réduction des émissions et l'effort financier à consentir pour l'adaptation. Je vais aborder l'une puis l'autre question. Comment répartir l'effort global de réduction des émissions de gaz à effet de serre ? Une piste qui est souvent évoquée et considérée comme la plus juste, c'est de répartir cet effort de réduction des émissions de gaz à effet de serre au prorata de la responsabilité des différents pays dans le changement climatique. En d'autres termes, on va appliquer le principe du pollueur-payeur. Vous avez créé le problème, maintenant c'est à vous de le réparer et donc de réduire vos émissions. Soyons clairs, même si ce que je vais dire peut paraître un peu choquant, économiquement, ce n'est pas la meilleure idée en termes de calcul coût-bénéfice. Ça coûte beaucoup moins cher de réduire les émissions dans les pays en développement que dans les pays industrialisés. Et donc toute une série d'économistes, par exemple, plaident pour que ce ne soit pas les pays industrialisés qui fassent le gros de l'effort, mais plutôt les pays en développement, avec bien sûr un soutien des pays industrialisés, parce que pour un même résultat, ça coûte moins cher de faire l'effort dans les pays en développement que dans les pays industrialisés. Néanmoins, chacun reconnaît aujourd'hui qu'il y a une dimension d'équité, de responsabilité qui ne peut pas être ignorée, qu'on ne peut pas appliquer de seuls critères économiques pour décider de la répartition de l'effort. Et donc, le critère qui apparaît le plus juste, c'est de répartir cet effort au prorata de la responsabilité des différents pays. Le problème, c'est qu'il y a différentes façons de regarder cette responsabilité. Les émissions globales par pays aujourd'hui. La Chine est le premier pays pollueur, suivi de près par les États-Unis. J'en profite pour signaler que, contrairement à ce que l'on croit souvent, les émissions de la Chine et de l'Inde ne sont pas du tout comparables. La Chine émet beaucoup plus que l'Inde, pour une population relativement équivalente. Alors ça, c'est une lecture de la responsabilité. Et selon ce tableau, on dira, voilà, c'est la Chine et les États-Unis qui doivent faire le plus gros effort parce que c'est eux qui polluent le plus aujourd'hui. Une deuxième lecture, c'est de considérer les émissions par habitant. C'est ce que disent les Chinois, par exemple. Ils disent, attendez, c'est injuste de nous considérer comme les plus grands pollueurs alors qu'on a 1,3 milliard d'habitants. Et donc, un critère plus juste, ça serait de dresser le tableau d'honneur des pollueurs en fonction des émissions par habitant. Et si on regarde les émissions par habitant, ben, on se retrouve avec des résultats assez surprenants. Par exemple, par habitant, le Canada est un plus grand pollueur que les États-Unis. Qui sont, à votre avis, les pays les plus pollueurs de la planète par habitant? C'est le Koweït, c'est Bahreïn, c'est les Émirats Arabes Unis, l'Arabie Saoudite. Globalement, un Koweïti pollue 6 fois plus qu'un Américain, qui lui-même pollue 26 fois plus qu'un Indien. Et donc, quand on regarde les émissions par habitant, on a une lecture des responsabilités des uns et des autres complètement différente. D'autres disent, et c'est aussi une possibilité, il faut regarder la responsabilité historique. Vous savez que ce qui crée le changement climatique, c'est l'accumulation dans l'atmosphère des gaz à effet de serre. Ce ne sont pas les gaz qui sont émis à un instant T, mais c'est leur accumulation au fil du temps. Et si on regarde l'accumulation des gaz à effet de serre, si on regarde la responsabilité historique depuis 1750, c'est-à-dire depuis le moment où on a commencé à créer le problème, qui est le pays le plus pollueur ? L'Angleterre. Si on inclut les émissions liées à la déforestation, et la déforestation représente aujourd'hui 1/5 des émissions de gaz à effet de serre, si on inclut ces émissions-là, qui généralement ne sont pas incluses, le Brésil devient le 3e pollueur mondial et l'Indonésie devient le 4e pollueur mondial. Une autre lecture des responsabilités, c'est de regarder où sont consommés les produits, les marchandises produites. Et la Chine dit, attendez, certes, nous émettons pas mal de gaz à effet de serre pour produire toute une série de marchandises, mais qui utilise ces marchandises? C'est pas nous. La plupart des marchandises produites en Chine ne sont pas vendues en Chine. Et donc, il faut considérer les émissions de gaz à effet de serre à partir de la destination finale des biens et des services et pas à partir de leur lieu d'émission. Et donc, si on fait ça, on a encore une toute autre lecture des responsabilités. Au fond, on voit comme il est très difficile de s'accorder sur une lecture commune des responsabilités et donc sur une lecture commune de l'effort qui peut être entrepris. Ajoutez à ça des considérations économiques. Certains pays ont davantage de capacité que d'autres à réduire leurs émissions. Et comme je l'ai dit, il coûte moins cher de les réduire dans les pays en développement. Et donc on a imaginé toute une série de mécanismes qui permettaient aux pays industrialisés d'acheter des crédits d'émission en échange de financement de projets dans les pays en développement qui permettaient de réduire les émissions de ces pays en développement. Une solution qui, pour l'atmosphère, représente le même résultat, mais représente une économie pour les pays industrialisés. Ceci pour vous donner une idée de la complexité du problème, de la complexité d'arriver à une sorte de lecture commune des responsabilités. J'ajoute que la crise économique n'arrange rien, évidemment, quant aux engagements que pourraient prendre les uns et les autres. Et au final, on se retrouve finalement dans une sorte de marchandage politique où chacun met sur la table ce qu'il est prêt à faire et où je pense qu'on va se retrouver dans la situation qui avait prévalu à Kyoto. Chacun met sur la table ce qu'il est prêt à faire et à partir de là, on tente de trouver un compromis qui permette d'arranger tout le monde. Ma crainte, c'est que le compromis soit insuffisant par rapport aux réductions qu'il faudrait entreprendre. Ces difficultés d'équité et ces difficultés distributionnelles se posent également en ce qui concerne le financement de l'adaptation. On estime que le financement de l'adaptation représente à peu près 100 milliards de dollars annuellement. D'accord ? 100 milliards de dollars, c'est beaucoup et c'est pas beaucoup à la fois. Pour vous donner des ordres de comparaison, le budget militaire annuel de la France, c'est 53 milliards d'euros. Le plan de sauvetage des banques, c'est 700 milliards de dollars. Donc l'adaptation, c'est annuellement deux fois plus que le budget militaire de la France, sept fois moins que l'argent qui a été dépensé pour sauver les banques. On s'écharpe aussi sur le financement de l'adaptation. Le financement de l'adaptation, c'est très important parce que c'est la condition sine qua non pour que les pays en développement participent à l'accord. Et c'est une position qu'ils ont eue très clairement depuis le début, c'est que s'il n'y a pas un accord satisfaisant sur le financement de l'adaptation, les pays en développement diront simplement aux pays industrialisés « Ciao, démerdez-vous sans nous pour réduire vos émissions de gaz à effet de serre, on ne participera pas à votre accord de pays riches. » La question se pose à trois niveaux pour ce qui concerne le financement de l'adaptation. Le premier niveau, c'est qui va payer. Le deuxième niveau, c'est sous quelle forme. Le troisième niveau, c'est qui va recevoir l'argent. Alors, qui va payer se repose à nouveau la question de la responsabilité que je viens d'évoquer. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, les pays industrialisés ne sont pas prêts à reconnaître une responsabilité politique particulière pour tel ou tel impact du changement climatique et craignent que ça n'ouvre la voie à des procès, notamment. Et donc, il y a eu refus de reconnaître cette responsabilité par rapport aux impacts. Donc déjà, c'est une difficulté pour le qui va payer. Comment va-t-on payer ? Là encore, deux points de vue s'opposent. D'une part, le point de vue des pays industrialisés qui disent « on veut bien donner de l'argent, mais c'est de l'argent qu'on choisit de donner sur base de contributions volontaires », donc en d'autres termes, comme l'aide au développement. Les pays en développement disent « pas question ». Cet argent, c'est le paiement d'une dette, c'est de l'argent que vous nous devez. Cette question est importante parce que, en ce qui concerne le contrôle de l'argent et le contrôle de l'affectation des ressources, les pays industrialisés disent, comme cet argent, c'est des contributions volontaires, c'est la Banque mondiale qui va gérer les projets de développement, qui va contrôler comment l'argent est utilisé et qui va sélectionner les projets qui peuvent être financés par ce biais. Et les pays en développement disent, pas question. Cet argent, c'est le paiement d'une dette, donc c'est de l'argent qui nous revient et qu'on peut utiliser comme on veut et pas question de passer par la case Banque mondiale qui va tout décider à notre place. Alors, la question délicate, parce qu'on pourrait être tenté de dire qu'évidemment cet argent représente un peu le paiement d'une dette et que l'argent est dû aux pays en développement et qu'ils ont le droit de décider comment cet argent pourrait être affecté au mieux. Si on fait ça, ça veut dire aussi qu'on n'a aucune garantie que l'argent soit effectivement alloué à des projets d'adaptation. Je ne parle même pas de la possibilité de corruption ou de détournement, mais simplement, en pleine crise économique, un État pourra être tenté d'affecter son budget à d'autres buts que des buts d'adaptation au changement climatique. Et puis on sait, malheureusement, que l'efficacité et l'intégrité de certains gouvernements dans les pays en développement laissent à désirer, non pas que ce problème soit le monopole des pays en développement, mais il n'y a aucune garantie que cet argent retourne finalement aux communautés. Donc la question est délicate à ce niveau-là aussi. Et puis elle est peut-être encore plus délicate quand on parle de la vulnérabilité des différents pays, c'est-à-dire de qui va recevoir l'argent. Et alors il faut trouver un critère de distribution de l'argent. Et ce critère, de l'avis général, doit être un critère de vulnérabilité, c'est-à-dire que les plus vulnérables doivent recevoir l'argent en premier lieu. La question, c'est qui doit recevoir l'argent ? Comment on définit la vulnérabilité ? Vous avez des pays comme la Chine ou comme le Vietnam qui disent il faut définir la vulnérabilité sur la base du nombre absolu de personnes qui sont exposées au danger des impacts du changement climatique. Évidemment, si vous faites ça, c'est les pays les plus peuplés qui arrivent en tête de classement. Les petits États insulaires, et Tuvalu par exemple, dit « Pas question d'appliquer ce critère pour la distribution de l'argent. On veut que l'argent soit distribué sur la base du critère de la proportion de la population qui est exposée aux impacts du changement climatique. » Et là, si vous faites ça, évidemment, les petits États insulaires qui ont très peu d'habitants, mais dont 100% des habitants sont exposés aux impacts, arrivent en haut de classement. Et donc, Maldives, Tuvalu et les autres petits États insulaires chipent la première place du classement à des pays très peuplés comme le Vietnam ou comme la Chine. Notre question qui se pose, c'est est-ce que les pays industrialisés peuvent aussi prétendre à recevoir de l'argent du financement de l'adaptation ? Par exemple, est-ce qu'on pourrait imaginer que les Pays-Bas reçoivent une partie de cet argent pour financer leur digue et le plan Delta ? Voilà une question qui n'est pas tranchée. Et donc toutes ces questions aujourd'hui ne sont pas tranchées. Ceci est une idée personnelle, mais la question du financement de l'adaptation aujourd'hui reste examinée au travers du prisme de la justice rétributive, c'est-à-dire au prisme du pollueur-payeur. En d'autres termes, on ferait payer les États les plus responsables et on attribuerait l'argent aux pays qui sont les premières victimes. Le problème, c'est que les États qui sont pollueurs peuvent aussi être victimes, c'est le cas de la Chine. Il n'y a plus maintenant de séparation nette entre les pollueurs et les victimes. Et d'autre part, que les pays qui seront les plus touchés par les impacts du changement climatique ne sont pas nécessairement ceux qui ont le moins de moyens pour mettre en place des stratégies d'adaptation. Par exemple, le cas des Pays-Bas, qui sera un pays très touché par la hausse du niveau des mers, mais qui dispose déjà en soi de ressources suffisantes pour mettre en place tout seul des mécanismes d'adaptation. Et donc j'ai tendance à plaider pour qu'il y ait une sorte de révolution copernicienne qui nous fasse abandonner le principe de pollueur-payeur et le principe de justice rétributive pour arriver vers un principe de justice distributive, c'est-à-dire une justice fondée sur la répartition la plus équitable possible des moyens disponibles en fonction des besoins. En d'autres termes, que les pays qui ont les moyens de financer l'adaptation, qu'ils soient pollueurs ou non, envoient l'argent en premier lieu aux pays qui en ont le plus besoin. Et je crains que si on reste dans des critères stricts de responsabilité ou de vulnérabilité, on arrivera potentiellement à des distributions d'argent qui n'ont pas beaucoup de sens. Où des pays très responsables, mais sans guère de capacité financière, comme par exemple la Chine, devraient payer des pays très vulnérables, mais qui ont une capacité financière, comme les Pays-Bas, par exemple. Si vous appliquez un principe de justice rétributive, vous pourriez imaginer que de l'argent chinois aille vers les Pays-Bas. Et c'est une justice distributive qui prévoirait plutôt l'inverse, que de l'argent des Pays-Bas aille vers la Chine ou même vers d'autres États qui ont encore moins de capacité. Voilà, c'est sur cette idée que je voulais vous laisser en conclusion. Voilà, merci beaucoup à toutes et à tous. J'espère que ça vous a intéressé. Et je vous souhaite un excellent week-end.
Cet enregistrement ponctue la seconde partie de la conférence que donnait François Guemène.